France Inter.
Aujourd'hui, le recul des produits bio, pourquoi le désamour ? Raconté par
Thomas Utayakumar, directeur des programmes à la Fondation pour la Nature et l'Homme.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tout commence en 1946, la France de l'après-guerre pense ses plaies, rêve de progrès et s'ouvre aux promesses de la modernité industrielle. Mais à contre-courant, un homme imagine déjà une autre voie, Henri-Charles Geoffroy, ancien soldat gazé en 14-18. Il a survécu, dit-il, grâce à un changement radical d'alimentation. De cette expérience naît une conviction, bien manger peut sauver des vies. C'est ainsi qu'il fonde la revue La Vie Claire en 1946, un journal libre et engagé qui milite pour une vie saine et sobre, dégager des pollutions industrielles. Deux ans plus tard, en 1948, face à la demande de ses lecteurs, Geoffroy ouvre un point de vente coopératif pour permettre à chacun de s'approvisionner en produits sains. Ce sera le premier magasin bio de France, bien avant la création du label AB. À l'époque, il faut dire que le mot bio n'existe pas encore dans le langage courant. On parle de produits naturels, d'aliments vivants, sans traitement chimique. Mais l'idée est déjà là, nourrir le corps sans l'empoisonner, respecter les sols, éviter les excès de l'agriculture intensive qui commence à peine son essor. Durant les décennies suivantes, La Vie Claire devient l'étendard de cette contre-culture alimentaire. Dans les années 70, avec l'émergence de la pensée écologiste et les mouvements alternatifs, d'autres initiatives apparaissent, des magasins coopératifs, des circuits courts, de l'agriculture biodynamique. Le bio, longtemps marginal, gagne en visibilité. Mais à mesure que l'alimentation biologique devient un marché, les grandes surfaces s'y engouffrent et investissent le créneau avec des gammes plus larges et souvent à bas prix. Résultat, en 2021, Carrefour devient le premier vendeur de bio en France avec près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, depuis 2022, le marché du bio décline. La crise inflationniste pousse les consommateurs à arbitrer. Entre prix bas et conviction, le panier cède. Selon les enseignes, 7 à 25% des produits bio ont été déréférencés en un an, réduisant leur présence et leur visibilité en rayon. Même les magasins spécialisés, pionniers de la première heure, souffrent. Aujourd'hui, ce secteur né de convictions fortes doit faire face à un défi inattendu, reconquérir le cœur et non plus seulement l'assiette des Français. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Thomas Utayakumar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Depuis ce premier magasin, La Vie Claire, en 1948, les produits bio ont, semble-t-il, quand même toujours gagné du terrain jusqu'à ces dernières années. Comment on explique ce phénomène ?
Alors, au départ, il y a eu une appétence croissante des consommateurs vis-à-vis du bio. Parce que le bio, qu'est-ce que c'est ? C'est s'affranchir des pesticides de synthèse et des engrais azotés de synthèse qui polluent les sols et pour les engrais qui contribuent au réchauffement climatique. Et donc, cette prise de conscience croissante de la part des consommateurs les ont orientés, pour certains d'entre eux, vers une agriculture biologique qui préserve justement les compartiments environnementaux. Et entre les années 90 à aujourd'hui, les surfaces bio ont explosé. On est passé de moins 1% de surface bio dans les années 90 à 2015-2020, enfin à 2020, à près de 10% des surfaces. Mais malheureusement, on voit que la bio aujourd'hui est en souffrance.
Alors ce qui est intéressant, c'est que la consommation, elle est directement liée à la taille des surfaces agricoles.
Oui, en partie. Il faut savoir qu'en France, près de 80% des produits bio consommés sont français. Donc on entend beaucoup parler du bio importé, mais la majorité de ce qu'on trouve dans les supermarchés et dans les magasins spécialisés, c'est français.
Le bio, ça représente quoi dans l'alimentation des Français d'ailleurs ? On va donner quelques petits chiffres, hein, on ne va pas évidemment en donner trop, mais juste pour avoir une bonne photographie, en tout cas, de la situation aujourd'hui.
Alors la bio, elle est passée sous les 6% de consommation dans le panier alimentaire des Français. Là, en l'espace de 2 ans, il y a justement un désamour des Français pour le bio.
Alors vous venez de publier un rapport avec la Fondation pour la Nature et l'Homme sur l'alimentation bio qui montre donc effectivement une baisse de 5% des produits entre 2020 et 2023, et cela donc après des années de croissance à deux chiffres. Et dans le même temps, et pour la première fois en 2023, les surfaces en agriculture biologique ont accusé un recul de 54 000 hectares. Alors quelle est votre analyse, vous, sur ces chiffres, alors que la France s'est fixé des objectifs ambitieux hein, pour convertir plus de surfaces agricoles en agriculture biologique d'ici à 2030. On en veut plus, évidemment. Et idéalement, il faudrait même doubler hein, les surfaces. Hein.
La première chose, c'est les politiques publiques. Si l'État français se donne pour objectif de massifier l'agriculture biologique, il faut des politiques publiques adéquates. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Parce que, jusqu'à très récemment, c'était pas vraiment le cas. On a plutôt des subventions qui sont dédiées à l'agriculture conventionnelle, qu'on appelle intensive, c'est-à-dire qui est très utilisatrice d'engrais azotés de synthèse, de pesticides de synthèse, ce dont on parlait tout à l'heure.
Ça veut dire qu'on est mieux financé quand on fait cette agriculture-là.
Tout à fait. En tout cas, il y a beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire nous, en tant que contribuables, on finance davantage l'agriculture conventionnelle que l'agriculture biologique. Le cap, c'est quelque chose d'important, parce que c'est à partir de là où on peut embarquer des acteurs dans une direction, et on en reparlera, notamment avec les politiques publiques qu'on a entre les mains aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le prix. L'agriculture biologique, c'est cher. Il ne faut pas se le cacher, c'est quand même, y a des différentiels de prix, 60, 70%, parfois 100%, entre un produit bio et un produit conventionnel.
Et ça, quel que soit l'endroit où on veut acheter du bio, par exemple sur les marchés comme dans les grandes surfaces, on a toujours un prix plus cher?
Le produit est généralement plus cher. Après, on peut discuter du pourcentage, mais le produit bio est plus cher. Mais c'est normal, parce que l'agriculture biologique, elle demande plus de travail à l'hectare, c'est aussi moins d'utilisation de certains intrants et des rendements qui sont moins importants. Donc il faut comprendre que l'agriculture biologique, c'est un mode de production respectueux de l'environnement, mais qui ne peut pas rentrer dans une logique de productivisme telle qu'on l'entend pour l'agriculture conventionnelle.
Donc il y a cette loi d'orientation agricole votée fin février et qui voudrait changer la donne quand même, puisqu'on parlait de surfaces qui avaient plus d'ambition en tout cas pour l'agriculture biologique.
Petit point d'histoire très récent, la LOA, c'est donc la loi d'orientation agricole, c'est une loi qui nous donne la photographie de l'agriculture qu'on va avoir pour les 10-20 prochaines années. Donc c'est une loi très importante. Dans cette loi, on s'est rendu compte, les élus ont considéré que l'agroécologie n'était pas quelque chose d'important. Donc tout ce qui a trait à l'environnement et au climat, ce sont des notions qui ont sauté progressivement dans l'élaboration de cette loi qui a quand même duré près de 2 ans avec la crise agricole et avec des pressions très importante. À la FNH et avec d'autres associations, mais aussi des entreprises, des mutuelles, des associations de consommateurs, on est allé arracher ce qui, pour moi, est la seule victoire de cette loi, c'est les objectifs de développement de la bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de la France, c'est une obligation désormais, c'est de doubler nos surfaces bio en 5 ans.
Donc de passer à 10% aujourd'hui, à 21%, c'est ça à peu près en 2030. Et ça, on vous le doit ?
En partie, en tout cas, on s'est battu pour, et jusqu'à la commission mixte paritaire, où les sénateurs voulaient justement faire sauter l'objectif bio. Et on a réussi à arracher cette victoire. Donc désormais, on a un semi-marathon, c'est-à-dire un défi qui va nous entraîner sur un doublement de surface. Il va falloir embarquer tout le monde.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez cherché à comprendre finalement avec la publication, la rédaction, l'étude autour de ce rapport là que vous sortez avec la Fondation pour la Nature et l'Homme ?
En fait, la distribution, pourquoi déjà on s'y est un peu attelé, c'est que pour doubler nos surfaces, on avait fait des estimations à la FNH. On s'était dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour doubler nos surfaces bio aujourd'hui, puisque l'histoire, et vous en avez parlé tout à l'heure, entre les années 90 et aujourd'hui, on est passé de 0,5 à 10%, et là, il faut passer de 10% à 20%. Donc, c'est un travail colossal. Et on s'est dit, faisons déjà un exercice, voyons ce que la restauration collective, en termes de débouchés, peut permettre d'un point de vue des augmentations de surface.
Et on s'est rendu compte, imposant, par exemple, plus de bio, on pourrait évidemment augmenter les surfaces agricoles.
C'est exactement ça dont il s'agit. C'est le raisonnement, c'est-à-dire plus de demandes.
Est-ce que c'est un levier, finalement, pour pouvoir avoir plus de surface?
C'est exactement ça, c'est-à-dire plus de demandes. Et à ce moment-là, est-ce que ça peut créer un effet, un appel d'air pour justement développer plus de bio et donc avoir plus de surface bio en France?
Donc vous avez d'abord regardé la restauration collective, c'est
oui,
ça?
Oui, parce qu'elle est déjà soumise à une loi qui s'appelle la loi Egalim, mais c'est une obligation. La restauration collective aujourd'hui doit avoir 20% de produits bio dans son offre de restauration, obligation qu'elle ne respecte pas aujourd'hui puisqu'elle est autour de 6%.
Alors imaginons qu'elle respecte justement ces 20%, est-ce que c'est en capacité d'augmenter d'autant la surface agricole ou pas?
Eh bien on augmente la surface agricole, mais on va grappiller quelques pourcentages de surface bio supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va passer de 10,5 peut-être à 12%.
Donc on
est encore très loin. de cette ligne d'arrivée, de ce semi-marathon. Si on embarque maintenant la restauration commerciale, les cafés, les bars, les restaurants, vous le savez très bien, vous allez au restaurant, il y a très peu de bio dans le restaurant. Mm-hmm. La restauration commerciale, c'est 1% de bio et majoritairement, c'est le vin qui porte ça. Donc,
ah bon ?
Ouais,
c'est vrai ?
Ouais, c'est surtout le vin. Ouais.
C'est le fait de cultiver du raisin bio, par exemple, qui participe à...
En tout cas, qui représente ces 1% de bio dans la restauration commerciale, parce qu'on en trouve très peu du bio.
Okay.
Et donc, si on arrive à embarquer la restauration commerciale et à faire de même que la restauration collective, on leur met 20% de bio. Pareil, on peut grappiller des pourcentages de surface bio supplémentaires, on peut arriver à 14%.
Donc le compte n'y est toujours pas.
Le compte n'y est toujours pas. Il y a un acteur aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est incontournable. Parce qu'il représente aujourd'hui 60% de la consommation alimentaire des Français, c'est la grande distribution. Et c'est pour ça qu'on est allé voir du côté de la grande distribution quels étaient leurs objectifs de promotion de la bio. Mmh. Et on s'est rendu compte dans notre enquête que le compte n'y est clairement pas.
Et donc il y a des efforts à faire sur ce levier très très important, évidemment, puisque c'est aussi un endroit, la grande distribution, où on achète du bio. Hein.
Exactement, même dans des territoires un peu isolés, on a parfois des territoires ruraux où on n'a qu'un grand distributeur à côté de chez soi. Mm-hmm. Et c'est pas normal, quel que soit son statut, notamment pour les plus précaires par exemple, de ne pas avoir accès à de la bio, parce que on peut toujours en mettre un petit peu dans son panier, et surtout quand on le souhaite.
Thomas Utayakumar, on va voir justement, pour rendre cette alimentation bio et agrandir la surface, comment on peut agir justement sur la grande distribution. Et puis vous répondrez bien sûr aux messages et aux questions qui arrivent sur la vente des produits bio en France sur la page de La Terre au Carré, franceinter.fr.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Faire face à ces problèmes alimentaires qui se posent maintenant d'une manière assez cruciale, en tous les cas le consommateur le ressent comme tel, il y a une culture qu'on appelle d'un nom barbare, la culture biologique. Alors je voudrais demander à Claude Aubert, qu'est-ce que veut dire ce mot-là ? À quoi correspond la culture biologique ?
Bien, dans biologique, il y a bio qui veut dire vie, donc c'est une culture qui respecte les équilibres, les phénomènes biologiques, et puis c'est aussi une culture, et c'est complémentaire, qui se refuse à employer tous les produits qui sont toxiques ou qui risquent d'être toxiques pour l'homme.
Voilà, ce mot barbare de culture biologique, c'était en 1973 dans une archive de l'INA. Pour illustrer la baisse des ventes de produits bio, puisque c'est notre dossier cet après-midi avec vous, Thomas Utayakumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et ce rapport que vous venez de publier, dans lequel vous tournez largement votre regard vers la grande distribution pour essayer de remettre le bio au cœur de l'alimentation et agrandir donc le pourcentage de surface cultivée. Comment qualifiez-vous le contexte en ce moment autour de la question du bio, tout simplement, même au-delà de l'alimentation ?
On l'a très bien senti ces dernières années avec la crise agricole, puisqu'il y a eu des revendications qui étaient très légitimes. Les paysans aujourd'hui ne gagnent pas leur vie. Et donc à partir de ce moment-là, ils ne comprennent pas pourquoi l'agriculture est toujours mise sous le tapis dans les différentes politiques publiques. Et donc ce caractère très inflammable qu'on a connu, il a mis en tension nos élus, même avant la dissolution. Et ce contexte explosif, il a conduit finalement à acheter la paix sociale avec ces derniers en leur promettant des choses, et notamment avec des termes très chapeaux, la souveraineté alimentaire, le revenu, certes, mais sans faire grand-chose. Et c'est ce dont on parlera peut-être juste après avec les véhicules politiques qu'on a entre les mains et qui ne traitent pas du revenu, qui est la principale revendication. Et puis surtout, qui met l'environnement complètement de côté. Mmh. Alors qu'on le sait très bien, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. L'agriculture va mal, les rendements décroissent. On a des sols qui sont en très piteux état et les dernières études même de l'Union européenne le montrent, en Europe et en France. Donc, il faut absolument arrêter de mentir aux agriculteurs. Le productivisme à tout prix et l'intensification à tout prix, c'est un mensonge.
On parle de backlash écologique en ce moment, c'est le même pour le bio d'ailleurs.
Oui, complètement. En fait, c'est certains élus, notamment du côté du Sénat, avec une majorité qui avait voté pour une loi au rabais et pour la PPL du plomb, qui est le véhicule dont on va parler peut-être juste après et qui traite des sujets agricoles. Malheureusement, on a ces élus qui ont senti l'appel d'air au backlash, qui ont compris qu'on pouvait peut-être faire des choses pour l'agriculture, mais qui finalement ne profiteront pas à la majorité, et donc des lois qui sont calibrées pour une minorité d'agriculteurs.
Alors le 27 janvier, justement, le Sénat a adopté à une écrasante majorité, hein, 67% des votants, la proposition de loi du sénateur Laurent Duplomb, qui prévoit de réintroduire des pesticides interdits en France depuis des années. Elle défend quoi exactement cette loi alors ?
Cette loi, elle défend plusieurs choses. On peut en citer deux, par exemple. La première, c'est de faciliter l'usage des pesticides. L'idée, c'est de dire la France, aujourd'hui, est en déficit de compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut redorer un peu le blason du potentiel productif de la France. Et comme je l'ai dit juste avant, en faisant croire qu'on va pouvoir produire toujours plus et concurrencer des puissances étrangères. Ça, c'est la première idée importante.
Qui, elle, par exemple, utilise encore certains pesticides, d'ailleurs.
Qui utilise certains pesticides et qui sont interdits chez nous. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mais on pourra aussi en discuter sur les solutions. Le deuxième point, c'est la manière de pouvoir intensifier aussi les élevages. Donc, en offrant des procédures d'autorisation simplifiées pour avoir des élevages plus gros. Par exemple, de faciliter l'administration pour passer d'un élevage de 40 000 volailles à 85 000 volailles, par exemple.
Cette proposition de loi, elle est intitulée « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ». Donc, sur le papier, c'est intéressant, mais dans les faits, ça correspond à tout ce que vous venez de nous décrire. Ce texte est arrivé à l'Assemblée en commission le 6 mai, avant un examen en séance à la fin du mois. Est-ce que son adoption est acquise ou au contraire loin d'être acquise, selon vous ?
Alors, au Sénat, c'était acquis. Ça, il n'y a pas de débat.
Non, mais à l'Assemblée ?
À l'Assemblée, ça va être plus serré. Il y a des commissions aujourd'hui qui ont pris le texte et qui l'analysent. Mmh. On a très bien vu dans la première commission développement durable qu'il y a certaines choses qui ne passent pas, notamment faciliter l'usage des pesticides n'importe comment, c'est non. Sur les élevages non plus, ça n'est pas passé. Et puis sur, par exemple, les stockages d'eau, ce qu'on appelle parfois les bassines, ça aussi, pour l'instant, ça a été stoppé. Mais c'est une commission consultative. Mmh. Donc là, les choses et les affaires sérieuses commencent dès demain. Avec la commission des affaires économiques, et là on va rentrer dans le cœur du sujet.
Au cœur des critiques, il y a les fameux néonicotinoïdes qui font leur retour finalement dans cette proposition de loi.
Oui, complètement.
Ce qui fait beaucoup réagir, évidemment.
Oui, la France avait souhaité être pionnière il y a quelques années en disant les néonicotinoïdes, c'est-à-dire ces molécules qui affectent le
tueur
système nerveux des insectes et tuent les abeilles, on les appelle les tueurs d'abeilles, on les a supprimées en France. Parce qu'on a jugé que c'était très problématique pour la santé du vivant, mais pas que les insectes, aussi les humains, mais aussi très délétère pour l'environnement. Donc on les a supprimées. Il y a un néonicotinoïde aujourd'hui qui peut poser problème dans une logique concurrentielle, commerciale, c'est l'acétamipride. Et dans ce nom barbare, on a effectivement des pays européens qui peuvent continuer à l'utiliser, mais pas la France. Mmh. Pour le reste, tout ce qui est raconté de la part de notre ministre de l'Agriculture ou des élus sur des surtranspositions, c'est-à-dire la France qui fait beaucoup plus d'efforts que les autres pays européens parce qu'ils n'auraient pas le droit d'utiliser des pesticides, c'est faux. Ça fait des mois que j'ai moi-même demandé la liste des surtranspositions au ministère concerné, aux anciens ministres, que ce soit de la transition écologique et aussi de l'agriculture, je ne l'ai jamais eu.
Donc cette proposition de loi porte le nom du sénateur Laurent Duplon, qui est aussi producteur laitier d'ailleurs en Haute-Loire. Il a aussi été le président FNSEA de la Chambre d'agriculture de son département. Qu'est-ce que ça raconte ce type de proposition de loi aujourd'hui justement quand on s'intéresse à l'écologie, au bio ?
Ça raconte quelque chose d'assez simple pour moi, c'est comprendre que aujourd'hui on peut prendre l'environnement comme bouc émissaire et faire en sorte qu'elle représente un peu tous les maux des citoyens et des agriculteurs. Et c'est de leur faire croire ça. L'agriculture aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, sans environnement, il n'y en a pas. Donc, commencer à faire croire qu'en utilisant davantage de pesticides ou d'engrais, ça va sauver l'agriculture, c'est faux. Le deuxième point, qui peut être aussi une illustration très simple, c'est la souveraineté. C'est-à-dire la France, aujourd'hui, peut s'en sortir seule et n'est dépendante de rien.
C'est ça. Donc, on peut vraiment être souverain. On peut vraiment, en tout cas, répondre à cette souveraineté alimentaire dont on entend parler tous les quatre matins, quasiment.
Alors, le problème dans la lecture de ces députés qui veulent voter la loi Duplon, notamment, c'est que la France est très dépendante de puissances étrangères, que ce soit pour les engrais de synthèse avec la Russie, qui nous en fournit une grande partie. Mmh. Je rappelle que la France, aujourd'hui, elle importe près de 80% de sa consommation d'engrais de synthèse. Donc, pour pérenniser ce modèle intensif, la France est perfusée par des importations et nous sommes aujourd'hui très dépendants de ces puissances dans un contexte géopolitique extrêmement fragile. Et il y a une solution aujourd'hui, c'est l'agroécologie dont l'agriculture biologique fait partie. Et c'est ça que nous essayons de porter depuis des mois.
Thomas Utayakuma, revenons donc à ce rapport, ce travail que vous avez mené, on le disait tout à l'heure, donc en regardant vraiment ce que la grande distribution pouvait faire pour essayer d'améliorer les choses et permettre qu'on ait plus de surface agricole en bio, parce que vous parlez d'un désengagement global de la grande distribution vers le bio. Qu'est-ce qui peut l'expliquer alors exactement ?
Dans les années fastes, où la distribution s'est positionnée de façon opportuniste, c'est-à-dire pour générer des bénéfices, elle a souhaité s'engager de manière plus forte en faveur de la bio en rentrant des objectifs dans leur reporting, notamment extra-financier, dans leur rapport d'activité, et ça a distillé une stratégie dans les différents départements de la grande distribution, les achats, le marketing, etc. Et tout ça par le rôle prescripteur des distributeurs, puisque c'est eux aussi qui peuvent donner envie d'acheter tel ou tel produit, et ben ils ont contribué à massifier l'agriculture biologique. Et ça, c'est l'histoire qui le montre. Le problème, c'est qu'ils ont senti le vent tourner avec l'inflation, l'augmentation des prix. Ils se sont dit, bon...
C'est plus là, un marché porteur, en fait.
C'est plus un marché porteur, exactement.
Donc, du coup, on invisibilise de plus en plus les produits bio, c'est ce que vous dites en substance. En tout cas, les objectifs chiffrés de la bio ont disparu, c'est ce que vous racontez des stratégies. Il n'y a pas une transparence suffisante de la part des produits dans ce qu'on peut voir, et trop peu disponibles, justement, dans les rayons.
Exactement, oui. Le fameux
déréférencement. Ça, c'est le constat que vous faites. Comment vous avez fait, d'ailleurs, juste un petit mot sur la façon dont vous avez procédé. Vous avez étudié combien de grandes surfaces, enfin de grandes enseignes ?
Alors, il y a 8 enseignes aujourd'hui qu'on a analysées. 8 enseignes, pourquoi ? Parce qu'elles représentent 98% des parts de marché des produits de grande consommation.
Ouais.
Et dans ces 8 distributeurs, 3 ne nous ont pas répondu, à savoir Leclerc, Auchan, Aldi. Et puis les autres ont voulu jouer le jeu et nous ont répondu lorsque nous on a effectué des interviews pour mieux comprendre ces stratégies de promotion de la bio. Et puis aussi, bien sûr, tous les documents publics que nous avons eu à disposition et qui nous ont permis de voir ce fameux désengagement.
Donc il y a une absence d'objectif aujourd'hui et de visibilité du bio de la part de la grande distribution.
Complètement. Il y a un manque de visibilité et on le voit déjà parce qu'on voit beaucoup moins de produits bio dans les rayons des supermarchés. On voit qu'il n'y a pas de stratégie efficace pour faire en sorte justement de donner envie aussi aux consommateurs d'en acheter et de leur proposer des produits plus accessibles, sans bien sûr rogner sur le revenu des paysans et des paysannes. Exactement, c'est très important. Et dans cette absence de stratégie, on voit finalement que lorsque c'est plus porteur, et lorsqu'il n'y a plus vraiment d'argent à se faire, et ben partons finalement dans une autre direction. Alors que nous leur disons aujourd'hui, on a réussi à arracher l'obligation de doubler nos surfaces bio en France d'ici 5 ans.
Et sans vous, on peut pas y arriver.
Ça paraît très compliqué d'y parvenir. Donc, ils vont pas avoir le choix, même si en parallèle, bien sûr, on a des recommandations auprès des politiques publiques.
On va parler de la question des marges, par exemple, entre le bio et le conventionnel. Juste un petit mot, est-ce qu'il y a quand même des enseignes de grande distribution qui font plus d'efforts que d'autres ? Est-ce qu'il y a des bons élèves qui ressortent à l'issue de ce rapport ?
Alors, déjà, tout... Les distributeurs ne sont pas à la hauteur, mais dans cette classe des mauvais élèves, oui, certains se détachent.
Donc notamment, les meilleurs, c'est lesquels ?
Alors, notamment Carrefour et Système U, qui sont les moins mauvais élèves et qui quand même ont certaines stratégies pour visibiliser la bio, pour faire un petit peu plus de publicité en faveur de la bio. Je rappelle quand même quelque chose, le marketing, notamment la publicité, c'est des milliards d'euros qui sont injectés, non pas pour faire la promo des produits durables, c'est plutôt 2 milliards qui sont injectés majoritairement pour se faire une guerre des prix entre enseignes.
Ouais.
Alors qu'on pourrait prendre une partie de cet argent
pour valoriser les produits bio, justement.
Les produits bio, et pas que dans la pub, mais aussi en les rendant plus accessibles, parce que, vu les marges importantes, il y a pas mal, on va dire, d'espace pour rendre ces produits plus durables.
On va y revenir dans un instant, on verra avec vous quelles sont vos recommandations aussi pour réinvestir la grande distribution dans le bio. La question des prix, évidemment, et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
On va faire une petite comparaison entre les produits bio et non bio.
Alors pour la bio.
Alors attendez. Tomates cerises rondes.
38,36 de marge. Et pour l'autre, 20,04 de marge.
Qu'est-ce qui justifie une telle différence de marge ?
Question piège. C'est pas d'explication rationnelle.
Ouais.
En tout cas, vous gagnez plus d'argent sur le bio.
Sur cette barquette, oui, on gagne plus d'argent.
Extrait d'un documentaire d'Arte sorti l'année dernière, Bio, la crise de foi de Rémi Delécluse. Thomas Utayakumar, vous êtes avec nous de la Fondation pour la Nature et l'Homme. On parle donc des ventes de produits bio en France et en particulier de la grande distribution. On sait beaucoup plus de marge sur le bio, ça vous l'avez constaté aussi en allant enquêter sur les enseignes ?
Alors ça, c'est plutôt des futurs travaux qu'on va mener.
Ouais.
Parce que comparer des marges, c'est jamais facile. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça.
Mais vous avez quand même comparé les prix entre le bio et le conventionnel, hein, l'écart des prix en tout cas.
Tout à fait. Alors, sur l'écart de prix, on est sur du 70% de différence entre le prix des produits bio et le prix des produits conventionnels.
70%?
Tout à fait, ouais.
Mais c'est gigantesque. Hein.
Alors, ça, c'est important.
C'est plus qu'important. Ouais.
Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est entre les enseignes, est-ce qu'on est sur le même ordre de grandeur ? Et on s'est rendu compte que non. Mm-hmm. Il y avait parfois des enseignes qui étaient plutôt sur 58-60% de différence de prix entre bio et conventionnel, et d'autres qui étaient plutôt sur du 70-80%. Et donc, ça nous interroge sur les efforts que peut faire le monde de la distribution en termes d'accessibilité des produits, parce qu'il est là aussi le nerf de la guerre.
Ouais. Mais qu'est-ce qui justifie cet écart, justement ? C'est les marges qui sont plus importantes, avec les distributeurs qui disent bah, « Après tout, on a un public qui a plus de moyens, donc on va y aller franco sur les marges qu'on peut se prendre sur ces produits-là »
Alors aujourd'hui, il se justifie de la manière suivante. Les filières bio, c'est des circuits parallèles par rapport au conventionnel. Donc il faut des filières distinctes, de la logistique distincte, de la séparation de produits entre de l'emballé bio et du pas emballé conventionnel. Et donc, par ces enjeux logistiques et par ces coûts supplémentaires qui vont être induits par ce processus-là, ils disent « c'est plus cher ». Donc il faut que les marges soient plus importantes.
Et ça, vous répondez quoi, vous, à ça ?
Moi, je réponds par une autre étude qu'on a fait dans le secteur laitier qui ne concerne pas la bio, mais qui est très intéressant. Dans le secteur laitier, figurez-vous qu'entre 2018 et 2021, dans une logique un peu plus macroéconomique, les distributeurs ont dégagé près de 800, avec le secteur de l'agroalimentaire, près de 800 millions d'euros de bénéfices nets. Alors que de l'autre côté, vous allez me dire, mais combien gagnent les paysans laitiers et les paysannes ? Même pas un SMIC horaire. Donc, cette répartition de la valeur qui est totalement inéquitable, c'est effectivement quelque chose d'insupportable. Et donc, de cette lecture-là, on pourrait se dire, mais si j'ai trop d'argent d'un côté et clairement pas assez de l'autre, il faut un rééquilibrage justement de cette valeur. Si on va maintenant sur des produits ciblés, comme on l'a fait pour le camembert, pour l'emmental, comme le yaourt ou le lait, on se rend compte qu'effectivement, les marges aujourd'hui diminuent chez les paysans et les paysannes, alors que ces marges augmentent progressivement chez ces acteurs de l'aval. Donc il faudrait réaliser un peu ce même type d'études, ce même type de travaux
sur le bio,
et voir ce qui s'y passe.
Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez finalement à l'issue de ce travail là que vous avez mené pour que la grande distribution réinvestisse réellement le bio donc dans ses rayons ?
Alors si on reste sur le prix, transparence et encadrement des marges. Ce n'est pas possible que des marges soient trop importantes et que ça se fasse au détriment des agriculteurs et des agricultrices, et puis surtout des consommateurs qui ont des prix qui sont clairement pas abordables.
Aujourd'hui, on est dans une opacité à ce sujet-là ?
On est sur une opacité maximale.
Et cette transparence, comment elle pourrait se traduire ?
Cette transparence, elle pourrait se traduire par des politiques publiques fortes. Alors, on a déjà Egalim, qui est notre loi sur l'alimentation. Il y a le quatrième opus de cette saga qui devrait arriver fin 2025 ou début 2026. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir justement faire en sorte que cette transparence soit beaucoup plus importante et qu'ensuite, on se rende compte que si les marges sont excessives, on encadre.
Donc ça repose sur le rôle de l'État, là ?
On est sur le rôle de l'État.
Avant même directement d'agir sur la grande distribution.
En parallèle, nous, dans nos travaux, on essaie d'agir aussi auprès des acteurs privés en leur expliquant qu'aujourd'hui, c'est un devoir de développer la bio. Et donc, ils vont devoir faire des efforts eux aussi. Ça pourrait être, par exemple, dans ces centaines de millions d'euros de bénéfices générés par les distributeurs ou même les acteurs agroalimentaires, pourquoi ne pas créer un fonds de transition agroécologique qui puisse aider les agriculteurs à s'engager dans l'agriculture biologique et puis aussi sur tous les modes de production vertueux possibles.
Le bio, il a toujours une image un peu premium, en tout cas pour les gens très aisés dans la grande distribution aussi.
C'est un produit qui est identifié premium par toutes et tous.
Ouais.
Et il est premium, mais parce que aujourd'hui, je suis consommateur, je vais en magasin, je suis noyé dans une jungle de labels. Ce n'est pas possible de comprendre...
Les labels bio ?
Les labels tout court.
Les labels tout court.
Les marques privées. Mmh. Aujourd'hui, la bio, elle est noyée dans toutes ces démarches-là. Vous avez plein d'autres labels, marques privées, HVE, zéro résidu de pesticides, etc. Mmh. Comment faire en sorte que la bio sorte du lot ? Il faut visibiliser, il faut sensibiliser et faire en sorte que les campagnes, que ce soit au niveau de l'État et des agences qui traitent du sujet de la bio, comme l'agence bio par exemple, mais que aussi les distributeurs mettent le pied à l'étrier et fassent communication qui soit beaucoup plus marquée sur les bénéfices de la bio.
Il faut que ces agences puissent continuer à travailler aussi, hein, et soient soutenues.
Et dans un contexte de potentielle suppression.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Thomas Utaya-Kumar, pour vous, ce message de Jérôme Maraîcher. J'ai proposé, dit-il, des concombres bio à un supermarché près de chez moi, à un prix très correct, mais il voulait que ce soit emballé pour la distinction avec le conventionnel. Comment parer à ce problème, demande-t-il.
Nous, il y a une proposition qui nous paraît importante sur la manière dont les distributeurs doivent travailler avec les acteurs intermédiaires et puis aussi avec les agriculteurs, c'est les contrats tripartites. Les contrats tripartites, c'est des modalités de contractualisation qui permettent de mettre un petit peu tous les termes dans son contrat et qui puissent profiter à l'agriculteur, aux transformateurs et puis aussi aux distributeurs.
Sans arriver à ce type d'aberration, par exemple.
Hein. Sans arriver déjà à ce type d'aberration et puis surtout aussi de comprendre quelles sont un petit peu les impasses et les demandes des paysans qui ont aussi des contraintes de leur côté.
Alors, beaucoup de questions sur la qualité aussi entre les enseignes spécialisées ou la grande distribution. C'est Thomas qui vous demande d'acheter chez Biocoop ou La Vie Claire reste encore très cher. Est-ce qu'il existe une différence en termes de qualité entre les marques bio de grande distribution ou ces magasins-là, ou est-ce que tout est équivalent?
Alors, attention, c'est pas tout à fait juste. Les prix chez les magasins spécialisés, que ce soit chez Biocoop ou ailleurs, regardez bien, vous verrez que les œufs, par exemple, coûtent bien moins cher que les œufs bio chez certains acteurs de la grande distribution. Et vous le voyez sur plusieurs produits, même parfois légèrement transformés, comme la compote ou autre. Donc, sur le prix qui est supérieur, ce n'est pas tout à fait juste. Et c'est pour ça qu'il y a une reprise aussi du côté des magasins spécialisés qui ont des gens qui se sont déportés vers ces magasins.
Et sur la qualité, alors?
Alors, sur la qualité, un produit bio, c'est un produit bio. C'est-à-dire que sur le volet environnemental, il est régi par un cahier des charges extrêmement exigeant avec des systèmes de certification, de contrôle, d'audit. Et donc, le bio, c'est le même.
Donc, on peut acheter une courgette chez un maraîcher, dans un petit marché, justement, et puis aller dans une grande distribution, on aura la même qualité au niveau du produit.
Alors, là, je parle bien du cahier des charges. Ouais. Ensuite, c'est clair que dans de la vente directe, etc., ou dans une petite exploitation, on va avoir des systèmes qui peuvent être bio et beaucoup plus diversifiés que des exploitations qui fournissent le grand distributeur.
Jonathan est agriculteur, le bio, oui, ok, mais dans ce cas, on bloque le bio non français, vous demande-t-il ?
Alors, le bio européen, c'est le même cahier des charges. Et le principe d'équivalence sur des produits bio non européens, d'ici 2027, va revenir, on va dire, sur la table. La grande question de l'importation de produits qui ne répondent pas à nos exigences, c'est sur les produits conventionnels et qui utilisent des pesticides interdits chez nous.
Patrice dit, outre les distributeurs qui ne jouent pas un rôle favorable au bio, n'est-ce pas le manque de volonté politique où les dirigeants se soumettent à un système conservateur largement soutenu par les lobbies agroalimentaires et un certain syndicat?
Oui, les syndicats majoritaires jouent leur partition et ont parfois un rôle très, très agressif sur la manière de pérenniser l'agriculture conventionnelle, ça c'est clair.
Et puis Daniel, pour terminer, dit à noter que la France, qui était première pour le bio au début des années 80, s'est fait doubler par l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne du fait d'une politique contraire justement au bio, donc le soutien doit se situer d'abord au niveau de l'État avant même...
Sur la cohérence des politiques publiques, on l'a dit au départ. D'un côté, on veut doubler nos surfaces bio. De l'autre, on continue à encourager l'utilisation de pesticides de synthèse. Ça n'a donc aucun sens. Réfléchissons plutôt à la manière d'accompagner techniquement et financièrement les agriculteurs pour s'affranchir progressivement des pesticides sur les 80% de surface restante.
Merci Thomas Utaya-Kumar. Votre rapport, celui de la Fondation pour la Nature et l'Homme, est disponible sur votre site internet fnh.org. Merci à Nama Sardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Merci.